vous apporter le message sur cette base en prenant appui sur la semaine dernière, en fait, en revenant au prophète Joël, puisque dans ce prophète, il y a une annonce très, très, très particulière qui est celle de la venue de l'Esprit. Donc, je prendrai ce message de Joël à partir de la bonté de Dieu qui est proclamée dans ce cantique, à partir de l'humiliation de tous, puisqu'il y avait un appel à la repentance, à s'assembler, à s'humilier devant Dieu, à toute la communauté, tous ensemble, les vieillards comme les enfants, même ceux qui sont à la mamelle, l'époux, l'épouse, tous ensemble devant Dieu pour voir sa bénédiction se manifester, parce qu'il y avait eu une calamité naturelle, les sauterelles en l'occurrence, qui avaient ravagé les cultures, et puis s'était ajoutée la sécheresse, etc. Et donc le Seigneur promet à ce moment-là, il n'est pas dit, mais c'est sous-entendu quand même, que le peuple a écouté la parole et qu'il s'est rassemblé et qu'il a prié. Et qu'à partir de ce moment-là, bien, le Seigneur a pu répondre, le Seigneur a pu exaucer, le Seigneur a pu apporter la bénédiction, redonner la pluie, redonner les semences, redonner le blé, le moule, l'huile. On va le lire. Et puis annoncer et donner quelque chose de plus grand encore, qui est le Saint-Esprit, de répandre l'Esprit. Mais, donc, Dieu agit tout simplement parce qu'il l'a promis. Il faudrait que nous sachions et que nous retenions et que nous intégrions bien cela. Dieu a promis. Et quand Dieu promet, il le fait. Dès qu'il rencontre les conditions nécessaires, il agit. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ici, la promesse, en l'occurrence, elle est de se trouver déjà dans le Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 15. Alors que, voilà, le Seigneur fait aussi des menaces à son peuple dans ce chapitre. Et à un moment donné, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasiras. Voilà la promesse qui est faite au peuple qui obéit, au peuple qui se tourne vraiment de tout son cœur vers Dieu pour l'aimer et le servir. Eh bien, dans ce prophète Joël, chapitre 2, verset 21 à 24, eh bien, le Seigneur promet à nouveau. Terre, chapitre 2, hein, c'est ça, 21-24, « Ne crains pas, sois dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, les aires se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. » Et puis ça continue. Mais là, c'est le Seigneur qui parle directement. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Répétez deux fois. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que le Seigneur aura agi, parce que le Seigneur aura répandu sa bénédiction, parce que le Seigneur aura levé son jugement, puisque c'est par un jugement qu'il avait envoyé les sauterelles et la sécheresse. Le prophète parle, et d'ailleurs il parle au présent quand il parle tout seul, mais le Seigneur parle au futur, je le ferai. Alors c'est déjà fait et puis ce sera encore à faire. Au sujet de, dans les versets 18 à 20 déjà, il y avait cette annonce, mais qui concerne à la fois la nature et les hommes. Et pour la nature, c'est dit au présent, et pour les hommes, c'est dit au futur. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. L'Éternel répond, et il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du moût et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. » Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel a fait de grandes choses. Donc, un peu de présent mais quand même beaucoup de futur même pour la nature. Mais pas seulement la nature, les hommes aussi, parce que l'invasion là, des sauterelles, eh bien, ce n'est pas seulement une calamité naturelle, ça annonce aussi une invasion par des armées qui se liguent contre Jérusalem. Donc le Seigneur va délivrer, en même temps qu'il accorde le renouveau de la nature, en même temps il annonce la délivrance de cet opprobre que les nations ont fait peser sur son peuple. Alors, tout ça, ça vient donc du miracle du Seigneur, de ce qu'il est capable de faire. Vous mangerez, vous vous rassasirez, le verset 26, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, des choses étonnantes traduites dans d'autres versions. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est par des prodiges de Dieu, ce n'est pas des choses naturelles, c'est Dieu qui intervient et qui accorde à nouveau sa bénédiction par des prodiges. Dieu est le Dieu des prodiges. Et lorsqu'il le décide, lorsqu'il parle, la nature obéit et les nations ensuite obéissent également. Donc Dieu, n'oublions pas, est le créateur de toutes choses, il a autorité sur toutes choses et quelles que soient les conditions qui se présentent à cause du péché de l'homme, Dieu est toujours capable de renouveler, de changer les choses, de redonner la vie, de redonner la bénédiction. Et puis à la fin, ce n'est pas seulement les prodiges de Dieu qui ont été manifestés, mais c'est aussi sa présence, puisque verset 27, vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, que je suis au milieu d'Israël, le seul Dieu présent au milieu d'Israël. Et cette présence, elle a été manifestée en chair. Jésus-Christ est venu au milieu de son peuple pour faire grâce et répandre la bénédiction et donner la parole de Dieu. Alors, ils ont dû le faire, ce jeûne. Ils ont dû se repentir et Dieu, leur Seigneur, les a exaucés. La foi a opéré car pour jeûner, pour prier, il faut que ce soit dans la foi, sinon c'est totalement inutile. Jeûner et prier, se contraindre et faire toutes sortes d'abstinences sans être dans l'assurance et dans la foi au Seigneur, eh bien, ça ne serait que s'affaiblir, s'exposer à des difficultés supplémentaires. Mais là, ils ont dû agir dans la foi et le Seigneur a pu exaucer. Mais Dieu avait quelque chose de plus grand en réserve. Et ça, nous le voyons donc, bien sûr, dans les versets 28 à 32, chapitre 3 dans certaines versions. Après cela, ça veut dire qu'il y a un laps de temps. C'est une autre étape. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions, des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. Cette parole, cette magnifique annonce, elle s'est réalisée, bien sûr. Elle s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Donc, avec un laps de temps, après la bénédiction, après le retour d'Israël, après que le désert ait pu refleurir même en Israël, l'Esprit est venu. Et l'Esprit est venu, et avec ce don de l'Esprit, la possibilité du salut. Car le passage se conclut, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » L'Esprit est venu sur Israël et sur les nations. Dans Actes, bien sûr, nous voyons au chapitre 2, la venue du Saint-Esprit. Et Pierre qui peut se référer au prophète Joël. Chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, c'est-à-dire païens qui s'étaient convertis. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? L'Esprit donne aux apôtres du Seigneur de parler des merveilles de Dieu, de ses prodiges, ce que le Seigneur a fait, de sa bonté, de sa justice, de sa fidélité, de sa manière de sauver les hommes par le don de Jésus-Christ. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Pierre cite intégralement Joël, et il cite Joël dans ce qu'il dit de complet, la venue du Saint-Esprit, mais aussi quelque chose qui va, à un moment donné, dans cette période, se manifester, c'est-à-dire les prodiges dans le ciel, les miracles sur la terre, du sang, du feu, vapeur de fumée, le soleil qui se change en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc il inaugure là une période. Par là, le don du Saint-Esprit est inauguré une période qui va aller jusqu'au jour du Seigneur, jusqu'à l'avènement de Christ, jusqu'au jour de l'Éternel, jusqu'au jugement. Mais pendant toute cette période, parce que l'Évangile est prêché par la puissance du Saint-Esprit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et en particulier, à la fin, lorsque peut-être tout se semblera être totalement, le monde se semblera être dominé par les nations hostiles à la foi au Seigneur, eh bien, même dans ce temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et en particulier dans ce temps-là. Et il est dit, donc, au verset 37, donc, bien sûr, Pierre continue en prêchant Jésus-Christ, qui a été crucifié, mais qui a été ressuscité par la puissance de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas être retenu par la mort, et élevé à la droite du Père, qui a répandu le Saint-Esprit, comme cela avait été promis. Et au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Pour être sauvé, bien sûr, il faut se sauver aussi du monde qui est hostile au Seigneur, du monde qui vit sans Dieu, du monde de l'idolâtrie, du monde de l'ignorance et de la rébellion contre Dieu. Il faut se sauver de ce monde-là en venant à Christ, recevoir le pardon de nos péchés et par ce pardon et la repentance personnelle et l'obéissance, recevoir le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà ce qui a été annoncé par le prophète Joël et qui s'est accompli le jour de la Pentecôte et qui est toujours en œuvre à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le Seigneur continue cette œuvre parmi les nations par la proclamation de la bonne nouvelle portée par la puissance du Saint-Esprit. Avec donc beaucoup de paroles qu'il leur donnait, il les exhortait par beaucoup de paroles. Les apôtres ont des paroles. Ils annoncent la parole de Dieu, la prédication de la croix. Parole que le monde ne reçoit pas, mais que les croyants reçoivent. Les paroles du Seigneur sont répandues par ses serviteurs afin de toucher les âmes, les cœurs, les amener à la foi et au salut. Et voilà, ces paroles, elles ont d'abord été données par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était la parole vivante et qui donnait les paroles de son Père et qui enseignait. Le Seigneur Jésus a fait des miracles, il a guéri, il a fait des choses merveilleuses. Mais tout au long de ce ministère, il enseignait, il donnait les paroles de Dieu. Et lorsqu'il dit, donc venez à moi, hein, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Alors le Seigneur est venu pour nous instruire, parce que sans connaissance, sans instruction, nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, l'annonce de l'Évangile se fait puissamment par le don du Saint-Esprit, avec les paroles du Seigneur qui sont répandues. L'apôtre Paul le dira donc dans l'Épître aux Romains, dans son chapitre 10, dont je viens de citer un extrait. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si nous prenons les versets 5 à 15 dans l'Épître aux Romains, eh bien nous voyons que Paul discute au sujet de la justification du pécheur. Et bien sûr, les Juifs avaient la loi, hein, et ils pensaient se justifier par l'observance de la loi. Mais, en effet, dit Paul, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car, et là, Paul revient à la parole de Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. La bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est dans ce temps que nous sommes, la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui demande que nous placions notre foi dans le Seigneur qui a donné sa vie pour nous ? Tout simplement. Le don de l'Esprit a inauguré cette période qui va jusqu'au jugement du monde. Parce que le don de l'Esprit, c'est à la fois le jugement du monde et le salut pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Il y a une petite particularité dans le prophète Joël qui est relevée par certains commentateurs. Chapitre 2, donc le verset 23, lorsqu'il dit Et vous, enfants d'allégresse, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Cette pluie, voilà, quelques-uns ont noté que le pluie, le mot pluie, moré en hébreu, peut aussi être proche de docteur, instructeur. Et ce qui fait que les juifs, une bonne partie des juifs, ont traduit, en fait, viendra non pas seulement pas la pluie, mais le maître de justice, celui qui annonce la justice de Dieu. Et donc l'enseignement de la vérité, en fait. Alors, on peut vraiment penser au Seigneur Jésus-Christ qui est venu, justement, donner les paroles de la vérité, les paroles de la justice de Dieu, accomplir l'œuvre de la justice, et qui, suite à cette œuvre et à cet enseignement, et au don de sa vie à la croix, a pu répandre l'Esprit, et l'Esprit a donc repris les paroles de Christ et a permis aux apôtres de, à nouveau, à leur tour, porter ce message en étant remplis de l'enseignement du Seigneur. Je vous donnerai un consolateur, il vous conduira dans toute la vérité, dit le Seigneur. Donc, voilà, cette pluie, c'est aussi la parole que le Seigneur envoie pour instruire de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Et c'est ce qui se fait à travers les serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai fait lire le psaume 84, parce qu'à un moment donné, dans ce psaume, eh bien, il est dit que, versets 6 et 7, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils se trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, traduit aussi vallée des larmes, vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Et encore une fois, c'est le même mot ici. Donc, cet enseignement du Seigneur qui peut venir mettre la bénédiction, qui peut venir alimenter l'esprit. Et ceux qui reçoivent et qui se confient dans le Seigneur, eh bien, ils sont dans cette vallée de larmes, ils sont dans ce monde, et ils peuvent, parce qu'ils portent en eux l'amour du Seigneur, parce qu'ils portent en eux les paroles, parce qu'ils portent en eux l'enseignement de la vérité, ils peuvent transformer cette vallée en un lieu plein de sources. Ils peuvent faire répandre la pluie de la bénédiction sur les âmes. Le Seigneur est venu pour cela, et les apôtres, et tout serviteur, et toute personne remplie de l'Esprit Saint, eh bien, va porter cette parole, cet enseignement qui est source de bénédiction, qui est source de renouveau, qui est source de salut pour les âmes. Alors, Jésus a été le parfait enseignant, et c'est lui qui a répandu l'Esprit. Et nous sommes dans ce temps de l'Esprit, de l'enseignement, de la proclamation, pour que chacun puisse invoquer le nom du Seigneur et être sauvé. Et l'enseignement donne toujours sa place à l'Esprit Saint. Les deux travaillent de concert. Et là, avec cet enseignement, avec l'action du Saint-Esprit, nous allons arriver, l'humanité va arriver, l'Église va arriver au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur vient, accompagné des phénomènes qui sont décrits. On pourra y revenir, on ne va pas s'étendre là-dessus, d'ailleurs c'est assez difficile à bien comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, par la prédication de la foi, Le salut est accordé à ceux qui croient. Et ce salut, c'est aussi le repos de Dieu. Comme nous avons pu le rappeler lors de la semaine universelle de prière, et cette semaine encore, donc lors des réunions qui ont eu lieu, avec ce thème du repos de Dieu. Être sauvé, c'est entrer dans le repos de Dieu. Et pour cela, il y a une condition, une seule condition, croire, la foi. Tous ceux qui ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, l'Épître aux Hébreux le dit, chapitre 3, verset 19, il y en a, bien sûr, parce que dans Israël qui a été sorti d'Égypte par la puissance de Dieu et qui s'est retrouvé au désert, le but c'était d'arriver dans la terre promise. Mais beaucoup n'ont pas atteint la terre promise, c'est-à-dire ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement, je vous lis simplement le 3, verset 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » À cause de leur incrédulité. Jésus, dans l'Évangile, dit aussi, lorsque les apôtres ne croient pas, la dureté de votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Croyez et livrez-vous à lui. Et lui, il va pouvoir à la fois vous laver, à la fois vous sanctifier, à la fois vous remplir d'Esprit Saint, à la fois vous donner l'espérance, la vie nouvelle. Toutes ces choses vous seront données par lui. Je voudrais rappeler, pour terminer ce message, je voudrais vous rappeler Noé. Quelque chose qu'on oublie peut-être. Je vais lire chapitre 5 de la Genèse, versets 28 à 29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Il a donné à son fils le nom de Noé, qui signifie repos. Noé était appelé à amener le repos de Dieu et à entrer dans le repos de Dieu. Mais comment est-il entré dans le repos de Dieu ? Comment a-t-il pu en quelque sorte accomplir son nom en ayant foi en Dieu? Lorsque Dieu lui a dit qu'il allait envoyer le déluge sur la terre et que pour lui être sauvé, il lui fallait construire une arche, et non seulement construire une arche, mais ensuite entrer dans l'arche, Noé a obéi, Noé a cru. Et c'est ainsi qu'il a été sauvé, qu'il a construit cette arche pour se sauver, lui et sa famille. Il a cru, et parce qu'il a cru, le repos est venu, en même temps que le jugement du monde, mais le repos pour le croyant. Nous sommes appelés, pour nous aussi, à croire. À croire au jugement du monde et à croire au salut que le Seigneur a donné à chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ. Car entrer dans l'arche, c'est bien croire en Jésus crucifié pour nous. Et l'apôtre aura cette formule, d'abord pour revenir à Noé, l'Épître aux Hébreux dit que C'est par sa foi que Noé aussi a condamné le monde. Parce qu'en même temps qu'il se sauve, il condamne le monde. Et l'apôtre Paul, dans Galates, au chapitre 6, verset 14, aura ces paroles. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Dans la foi en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui intervient et qui est une séparation radicale, qui est, voilà, que en Jésus-Christ nous trouvons la vie, mais en même temps, en Jésus-Christ, le monde, lui, se retrouve complètement à l'écart. Le monde qui a crucifié le Seigneur ne peut pas être sauvé. Par contre, ceux qui, dans ce monde, reçoivent le témoignage du Seigneur, eux, eh bien, ils entrent dans le salut de Dieu. Dans le monde entier, en réalité, tout le monde pourrait être sauvé, parce que le Seigneur a donné sa vie pour tous. Et donc maintenant, c'est cette alternative qui est là, ce choix de rester dans ce monde incrédule et d'être perdu avec lui, ou de recevoir le salut par l'œuvre de Jésus-Christ, et de ce fait-là, être séparé de ce monde. Le monde est crucifié pour moi, dit l'apôtre, comme moi je le suis pour le monde. On est, par l'œuvre de Christ, quelque chose de totalement nouveau se fait. Nous entrons dans une autre vie, dans la vie du royaume, dans la vie éternelle, dans la vie de Dieu, dans la présence de Dieu. Et c'est cela que le Seigneur fait, est en train de faire, et j'espère est en train de faire pour chacun d'entre vous ici, dans l'Assemblée, mais peut encore faire pour bien des âmes perdues au sein de ce monde. Le monde va vers son jugement et ça donnera des choses qui commencent déjà à se manifester depuis longtemps, mais des choses qui seront très difficiles à vivre humainement, mais nous serons dans une pleine sécurité si nous avons reçu le Seigneur Jésus comme étant notre salut, notre arche de salut. Et nous serons, le jour de son avènement, le jour où tout se réglera devant Dieu, eh bien, nous serons avec les saints, avec les sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et que vous puissiez être renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit pour ce message de la foi en Jésus-Christ, de la foi à salut, de la foi pour le pardon des péchés, de la foi pour la vie de justice. Amen.